Après le portrait de la cité, puisque bon, il y a Youri et Gagarine, là on vient de parler de Gagarine, la cité, maintenant on va parler de Youri, le personnage. Youri, donc, sa question, c'est celle de l'individu et de groupe. Qu'est-ce que c'est finalement, le film pourrait être une forme de récit d'éducation. Il y a une éducation amoureuse, il y a un rapport avec les amis, des amitiés qui se perdent, inattendues, des choses comme ça. Il y a un rapport avec le groupe, mais c'est aussi un apprentissage familial. Qu'est-ce que c'est vivre seul quand sa mère n'est pas là, quand elle a refait sa vie? Et la réalisatrice dit, alors toutes les citations sont extraites du dossier de presse qui est également disponible sur Internet. Donc si vous tapez dossier de presse Gagarine, vous avez plein de citations, la parole des deux co-réalisateurs et réalisatrices. On avait envie de porter un regard positif sur un lieu et une jeunesse qui sont souvent caricaturés. Youri aime sa cité. Pour lui, ce n'est pas qu'une utopie du passé. C'est son présent et c'est le terreau de son avenir. La quitter, c'est tout perdre, renoncer à sa famille et à son monde imaginaire. Alors, il rentre en résistance. Alors, première chose qui me semble intéressante dans cette citation, c'est le rapport entre passé et avenir. C'est-à-dire que c'est une question qui est clairement posée dans le film. C'est une cité du passé. Et quel va être l'avenir du personnage avec un grand point d'interrogation? Il y a un moment dans le film, un personnage secondaire, c'est le dealer d'Ali, qui danse, vous vous souvenez, et il dit, ça y est, là, on est au présent. Et finalement, c'est peut-être un des seuls moments où Youri arrive à être dans un pur présent et pas dans un imaginaire délirant. C'est le moment où il montre son monde imaginaire aux autres. Et donc, il y a une correspondance finalement du réel. Oui, Diana et Dali sont vraiment réels. Oui, ils dansent vraiment, ils passent des bons moments. Et en même temps, de l'imaginaire. Donc, c'est le seul moment où il y a un vrai présent. Donc, peut-être, voilà, c'est un adolescent, un jeune homme qui souffre avant tout de ne pas être de son temps dans son temps, puisque sa mère n'est pas là, puisque sa cité est détruite. Il y a plus, en quelque sorte, la cité, c'est aussi une excroissance maternelle. En l'absence de la mère, la cité devient la mère protectrice. Il y a quelque chose à cet endroit-là. Alors, sa solitude, elle est présente dans tout le film. Et voilà, alors je vous ai mis quelques images symboliques. La première, en haut à gauche, c'est la première chose qu'on voit de Youri quand même, c'est intéressant de noter avec vos élèves, c'est lui qui regarde le monde de loin. Il regarde avec son télescope, là. Donc, il n'est pas dans le monde, il est dans le regard. Il est d'abord observateur. Alors, il est observateur dans un premier temps, puis on voit qu'il est quand même acteur de cette cité, qu'il fait des choses pour cette cité. Deux personnages, Farid et Oussam, vont lui dire à un moment, c'est bien ce que tu fais. Ah, heureusement que tu es là pour la cité. Donc, c'est le ciment de la cité. Donc, il est dans une sorte au début, d'écart, mais il existe quand même dans ce monde. Puis, il y a les scènes en haut, au milieu et en bas à droite du rapport à la mère absente. Donc là, on voit bien que c'est une solitude d'abord familiale. Hein. Et il y a également les moments où on le voit seul dans la cité dans la dernière partie. Donc en haut à droite, on a vraiment l'impression qu'il est filmé comme un roi déchu, hein, le roi déchu d'une cité qui n'existe presque plus. Et au milieu, sur le toit. Et à gauche, c'est le moment où il voit Diana partir. Quand le camp Rome a été démantelé, détruit. Donc, vous voyez que c'est un personnage qui est sans cesse ramené à sa propre solitude, et lorsqu'il a des amis, ses amis vont être peu à peu exclus de ce monde pour une raison ou pour une autre. Alors, un des personnages centraux du film, c'est le personnage de Diana. Le personnage de Diana, dit Fanny Liattard, est né d'une situation qui nous avait frappés. Au pied des grandes tours de la cité Gagarine, il y avait des camps de Rome qui s'étendaient tout du long. Une verticalité et une horizontalité qui ne se rencontraient jamais. Il n'existait aucune passerelle entre ces deux mondes. On a eu envie de se rencontrer deux personnes issues de ces deux endroits. Deux personnages dont la société ne veut pas et qui s'inventent malgré tout en fabriquant leur propre monde et leurs propres outils. Comme je vous disais au début, ce sont deux personnes du côté du manuel, du côté de la mécanique, ce qui n'exclut pas d'ailleurs la part de rêve et d'imagination, mais il y a le rapport au fil, à mettre les mains à la pâte, à construire quelque chose, est très important. Dans un monde où tout est sur la destruction, ces deux personnages qui vont construire, et ils vont aussi construire une histoire d'amour. Donc c'est un élément ici intéressant parce que Diana est vraiment un double de lui. Ce qui est intéressant dans ce que dit la réalisatrice, c'est aussi horizontalité, verticalité. C'est-à-dire que quand elle voit les espaces, elle voit des formes. Donc là aussi, il y a un élément, encore une fois, visuel, poétique, qui nous a annoncé dès les premières images en couleur du film, qui finalement est central même dans les personnages. Les personnages existent dans un milieu et dans un lieu donné, et ils sont en lien avec ce lieu, ce qui fait que quand les caravanes sont détruites, Diana s'en va. Donc il y a quelque chose de très fort ici, d'une promesse finalement autour du lieu et du corps comme indissociable. L'espace intime de la famille est à la fois très bien développé et très absent, enfin, disons, pris par son absence. Les familles, d'abord, on en voit beaucoup dans la première partie, des familles, des enfants, on voit les Roms aussi, les frères de Diana, etc. Donc, toutes ces familles mettent en valeur que Yuri, lui, est seul. Les familles sont liées à la transmission, à l'héritage. En particulier, le personnage de Farida va raconter, elle va être la porteuse de l'histoire, la porteuse de l'héritage familial. Elle raconte sa propre histoire, elle raconte l'histoire de Yuri quand ses parents sont arrivés si jeunes, etc. Voilà, sans doute, son nom vient de, presque sans aucun doute, son nom vient de la cité. Donc lui, c'est presque un enfant de la cité, il est nommé d'après la cité. Et donc, je vous ai mis une image à gauche de Farida, qui va être aussi d'une certaine façon une mère de substitution dans le film, puisqu'elle a l'âge à peu près d'être mère, et on la voit d'ailleurs à un moment avec un enfant dans les bras, d'être sa mère. Et il y a une autre mère de substitution qui est intéressante, c'est Claudie Aigneret, l'astronaute, puisque c'est le moment où il va regarder les vidéos qu'il a l'idée de faire son intérieur, qui va quand même ressembler très fort à la cabine où est-ce qu'elle montre dans la vidéo. Donc elle nous fait une petite visite, comme une mère finalement qui montrerait l'appartement, et il va habiter symboliquement dans le même appartement avec Claudie, puisqu'il n'a pas de mère, il s'invente une mère de substitution. Donc on pourrait dire que c'est le fils de Yuri Gagarin et de Claudie Aigneret en quelque sorte. La famille, elle est aussi montrée avec la figure, une sorte de figure de frère. Alors, même si évidemment, quand on dit frère, quand il dit ouais, t'es mon frère, etc., on entend très fort la traduction directe de l'américain bro ou quelque chose comme ça. Mais ici, c'est aussi apprendre au premier degré. Comme on est une famille et tu es vraiment mon frère. On a vécu ensemble, peut-être pas dans le même appartement, mais dans le même bâtiment en tout cas, peut-être des appartements à côté ou l'un en dessous de l'autre. Donc il y a une forme de fraternité qui dépasse simplement le fait d'être voisin ici dans cette amitié. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une scène assez ironique avec, quand il a le bébé dans les bras, qui traite vraiment de la famille. Et puis il y a, comme je vous l'ai dit, le casque qui lui rend, etc. Et enfin, évidemment, il y a cette personne qui est absente du film, qui est la mère, qui n'est que un mot et de l'argent, ou alors des mots que Farida reprend, elle dit « ta mère vient demain », et puis bon, elle n'est pas venue, enfin, ou elle est venue mais elle ne l'a pas amenée. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu des scènes avec la mère qui ont été tournées, elles ont été coupées au montage, donc en quelque sorte le film a rejeté la présence de la mère, il ne fallait pas la montrer en quelque sorte. Alors peut-être que les scènes n'étaient pas aussi réussies, mais c'est toujours intéressant, un film c'est une matière vivante, c'est-à-dire qu'on écrit des choses au scénario, on les tourne, ça change un peu, et au montage il y a des choses qui nous semblaient très très mineures et qui sont très très importantes, et puis des choses qui nous semblaient importantes narrativement, par exemple montrer cette mère, avoir une relation avec la mère, et puis finalement ne pas la voir c'est plus fort, parce que ça travaille sur le vide, ça travaille sur le hors-champ, et le spectateur peut se projeter plein de choses. Donc voilà, c'est un élément ici qui est intéressant, comment un film est une matière vivante, et comment un personnage peut disparaître du film pour avoir une présence fantomatique beaucoup plus forte. Parce qu'évidemment, si la mère avait été montrée physiquement, s'il avait parlé avec son fils, elle n'aurait plus été ce fantôme-là. Donc là, elle travaille très fort comme un fantôme. On a juste l'argent, et puis il y a une photo que j'ai réussi à trouver de la mère, mais vous voyez que c'est une photo pas récente, puisqu'a priori, elle est avec Yuri. Donc c'est une photo d'antan déjà, comme du passé, comme si elle était déjà plus là. Donc quelque chose de très fort autour de ça. Et enfin, bien sûr, comme je disais, Farida, mère de substitution, ou Sam, frère réel, ou de substitution, il y a quelque chose autour de cette communauté qui va devenir comme une famille, qui est intéressante ici dans le film. Alors, le collectif est très très important, donc, puisque cette famille, voilà, et il y a énormément de plans, que ce soit dans les images d'archives en haut à gauche, voilà, où on voit les gens ensemble. L'idée d'être ensemble dans les plans, faire des plans large ou pas si large d'ailleurs, des plans moyens, des personnages, c'est important dans toutes les scènes à gauche. Au milieu, je vous ai mis des scènes du déménagement, on voit comme ça, chacun prête quelque chose à l'autre, donne quelque chose à l'autre, aide l'autre. Donc un déménagement plus qui est filmé comme quelque chose de collectif, comme si tout le monde déménageait en même temps, quitter l'appartement en même temps, c'est pas un jour l'un, un jour l'autre. Donc quelque chose ici de très fort autour du collectif. Et on voit, je vous ai mis une petite scène où on la voit de trois quarts d'eau avec Farida qui aide à un moment une femme avec sa demande de relogement, etc. Donc cette idée de « on aide les autres », Je vous rappelle encore une fois qu'une des inspirations, enfin même une des aides des réalisateurs et réalisatrices, ça a été cette communauté de femmes voisines sans frontières. Donc ils ont vu un sens du collectif, de l'humanité, qui leur a plu et qu'ils ont voulu en rendre compte dans leur film. Et à droite, enfin, les images de la fin, où on voit que les gens deviennent des petites lumières dans la nuit. Donc c'est très beau parce que finalement, ça reprend la métaphore du ciel étoilé, un moment que Yuri montre à Diana. Mais tous ces personnages vont être comme des petites étoiles liées les uns aux autres dans une même constellation. Donc c'est une image voilà, très poétique, très belle autour de ça. Et à la fin, c'est aussi intéressant que tout le monde se précipite. Alors c'est évidemment Diana en premier, et puis Oussam et Farida. Mais après, il y a tout. On voit que les gens sont autour de Yuri. Donc il y a quelque chose de collectif autour du corps de Yuri ici qui les réunit. Alors l'héroïsme dramatique, narratif, on pourrait dire. Un personnage seul contre tous. Yuri est le seul qui va rester, comme je vous l'ai un peu dit dans le résumé du film, finalement. Ici, ce qui me semble très intéressant, c'est qu'un spectateur, il entre plus en empathie avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'aide. Évidemment, si le personnage est aidé toutes les cinq scènes, c'est moins intéressant. Si le personnage est seul, qu'il se fait abandonner par sa mère, que ses amis partent progressivement et que c'est le dernier à croire à cette cité, sa foi est beaucoup plus forte et on peut s'accrocher beaucoup plus à lui. Scénaristiquement, on s'attache à un personnage parce qu'il lutte. Donc plus le personnage lutte, plus il a des obstacles, plus on s'attache à lui. Si on lui donne tout clé en main, on ne va pas s'attacher à lui. Même si son désir était très noble, il ne va pas nous passionner. Donc ici, on voit des images de Yuri qui est seul, les moments où il va détruire, ou les moments où il va montrer à Diana, dans des moments d'amour, il va montrer son monde, son univers intérieur. Et on voit aussi des personnages qui sont liés à cette résistance. C'est d'autres personnages qui ont leur résistance. On a le personnage de Dali qui lui va résister contre les forces. Alors symboliquement, dans les films burlesques, ce seraient des policiers parce que c'est les forces de l'ordre. Ici, ce sont des ouvriers qui vont représenter l'ordre, l'ordre établi, la loi, il faut détruire, etc. Donc lui, il est hors la loi et il y a ceux qui sont du côté de la loi qui vont le virer, mais pas parce qu'il deal, mais parce qu'ironiquement, mais parce que il est là alors qu'il ne devrait pas être là. Et on a le personnage de Diana, qui va être un personnage vraiment d'action, qui deux fois va essayer, et puis la deuxième fois réussir, à passer les barrières, donc à passer la prison, elle va casser le mur de la prison symboliquement. Une première fois avec les ouvriers qui vont lui dire, voilà, je suis sûr, il est là au septième, ils vont dire, non, 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 on a vérifié. Et la deuxième fois, elle passe la barrière et elle ouvre une brèche. Et ce qui est intéressant dans cette résistance, c'est qu'elle va amener tous les autres à venir avec elle dans cette action finalement de retrouver Yuri. Et alors, je voulais vous montrer un extrait d'un film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Aquarius de Mendoza, et film brésilien, et qui a un autre intérêt, c'est que le dernier film du réalisateur est sorti la semaine dernière. C'est un documentaire qui s'appelle Portrait fantôme, et c'est sur des immeubles à Recife, au Brésil. Et c'est comment les immeubles du présent portent les traces du passé, comment les immeubles détruits, reconstruits, qui parfois, ils filment aussi beaucoup d'anciens cinémas, des cinémas qui ont pris la place de certains bâtiments, puis qui sont devenus d'autres choses que des cinémas. Donc comment un appartement, son appartement personnel, sa maison personnelle, et comment les cinémas, les bâtiments de Recife existent dans le temps, se transforment, parfois sont détruits, etc. Donc ça, c'est un documentaire vraiment passionnant, très poétique. Et déjà dans Aquarius, finalement, le centre du film est un bâtiment, c'est l'appartement de l'héroïne qui est dans un grand ensemble, on pourrait dire, dans un grand immeuble. Je vous laisse regarder ce moment. Intéressant, vous voyez que la scène a commencé par elle avait ses cheveux détachés quand elle dormait, et à la fin, elle défait ses cheveux à nouveau. Et il y a quelque chose de presque du combat. Les cheveux, c'est l'endroit du combat, elle est prête à se battre, quelque chose de presque sur l'armure, et puis sur le pouvoir sacré des cheveux, là d'abord, premièrement. Deuxièmement, c'est très fort sur l'idée de la résistance. C'est-à-dire que c'est la dernière personne qui habite dans cet immeuble. Les hommes d'affaires veulent en faire une résidence bourgeoise et se faire plein d'argent, et elle refuse. Et tout le film va être, toute la première partie du film va être les souvenirs liés à cet appartement, pour qu'on montre qu'un immeuble, un appartement, un foyer n'est pas juste, c'est pas seulement des murs, c'est aussi une histoire, c'est des histoires qu'on a vécues, donc c'est du temps, c'est de l'amour, c'est des séparations, c'est des morts et des deuils, etc. Donc toute la première partie va incarner la passion pour cet appartement, et dans la deuxième, ça va être cette lutte pour est-ce qu'ils vont réussir à la faire partir, ou est-ce qu'elle va réussir à résister jusqu'au bout pour, en quelque sorte, pourrir leur projet immobilier néo-capitaliste. Alors, vous voyez, il y a un dialogue aussi qui est intéressant, c'est quand il se trompe, quand il fait ce lapsus qui existait, c'est le nom de la cité, de l'appartement, de l'immeuble qui existait, et elle le reprend, il dit qui existe, vous avez d'ailleurs la main sur ces murs. Donc elle est très pragmatique, elle est très dans le concret, dans le réel, et elle est dans le présent. Donc contrairement à Yuri qui est dans un décalage, le personnage ici de Clara, je veux passer à Braga, est dans un pur présent, et c'est elle qui est dans le présent, alors que les autres sont dans un autre temps, qui est un temps d'exploitation en quelque sorte. Autre élément intéressant, alors voilà, sur l'entêtement, l'obstination, vous voyez qu'une scène, ça peut tenir sur peu de choses. C'est un personnage qui veut quelque chose et l'autre qui veut quelque chose d'autre, et il résiste. Et finalement, le symbole de leur lutte, c'est cette page bleue qui passe sous la porte, qui repasse d'un côté et de l'autre. Donc l'entêtement des personnages, c'est toujours quelque chose auquel le spectateur et la spectatrice s'attachent beaucoup, encore une fois. Quelqu'un qui tient vraiment à quelque chose et qui lutte vraiment, ben, il nous est beaucoup plus sympathique. Dernier élément, dans la mise en scène, il y a un élément intéressant. Vous avez peut-être remarqué d'abord quand elle dort, bon, il y a un effet de double focale, c'est-à-dire qu'elle est à la fois nette et dehors, c'est net aussi. Et il va y avoir un plan assez étonnant. On a un travelling où on voit ce jeune homme et puis les autres qui arrivent et qui passent comme. Et la caméra va suivre le sol comme si on suivait leur déplacement un peu en transparence. Et comme si finalement c'était des termites ou des petits insectes qui étaient sous le sol, qui allaient arriver à la porte. Or, pour ceux qui ont vu le film, évidemment, c'est une métaphore qui est très forte dans le film et qui va exister très concrètement, celle des termites. Donc, il y a cet élément-là qui est intéressant, c'est-à-dire que la caméra va nous révéler l'invisible, elle va nous révéler ce que sont les personnages. Dernier élément qui est intéressant par rapport à Gagarine, c'est que qui est le méchant ici? Alors, évidemment, il y a le méchant capitaliste, le patron, mais il y a son petit-fils. Le petit-fils, il est jeune, il est charmant, il est souriant, etc. Et c'est intéressant quand une figure du mal, vous la faites jouer par un acteur qui est différent, qui n'est, ou une comédienne qui n'est pas, le méchant vieux et moche, ok, c'est évident, il y a quelque chose de redondant. Et donc c'est intéressant ici, il y a vraiment ce jeu sur la jeunesse et le côté charmant et séducteur du personnage qui va finalement le rendre encore plus dur, encore plus cruel. Et dans Gagarine d'ailleurs, les deux personnages qui viennent annoncer, enfin qui viennent faire les, ils sont pas méchants, hein, c'est pas des méchants, mais qui viennent faire les essais dans les couloirs, etc. Ce sont les réalisateurs du film. C'est la réalisatrice du film qui leur dit non, non, mais moi je viens juste vérifier les parties communes, etc. Donc c'est intéressant parce que le réalisateur et la réalisatrice se sont distribués dans les rôles de ceux qui viennent checker et qui viennent dire aux habitants voilà quelque chose. Donc c'est aussi intéressant parce que comme vous voyez, ils sont très jeunes et donc ça dit quelque chose finalement d'être le maillon de en train de, on est dans, pris dans un travail, on est jeune et on doit participer involontairement à cette destruction.